Le journal, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, que peut la communauté internationale pour éviter un nouveau chaos en Syrie? Le Conseil de sécurité de l'ONU réuni ce soir alors que l'offensive turque dans le nord-est se poursuit. Le Turc Erdogan menace de laisser partir les plus de 3 millions de réfugiés accueillis sur son sol si on ne lui laisse pas les mains libres. Nous allons à Istanbul et avec Bertrand Galichet, les options sur la table à l'ONU, en Europe et à l'OTAN. Le président allemand à la synagogue de Halle ce matin. Inquiétude et colère d'une partie de la communauté juive après la tuerie d'hier. Nous ne sommes pas assez protégés. En France, l'usine Michelin de La Roche-sur-Yon en Vendée va fermer. C'est ce qu'annonce la direction. Colère des salariés.
On a toujours fait ce qu'ils ont demandé. Passer en 4-8, repasser en 3-8, etc. On a toujours respecté leur choix. On a toujours fait le boulot, etc. Sauf que malheureusement, on n'est pas assez compétitif apparemment.
Un reportage complet, Raphaël Ebenstein, tout à l'heure. Le prix Nobel de littérature, c'est imminent. Bonjour Ilana Mor-Youssef.
Bonjour, c'est même maintenant, puisque le prix Nobel 2018 est attribué à la Polonaise Olga Tokarczuk et le prix Nobel 2019 est attribué à l'Autrichien Peter Handke.
Deux prix cette année, puisqu'il n'y en avait pas eu l'année dernière. On détaille tout cela avec vous dans le cours de ce journal. Dans cette édition encore, les eurodéputés vont-ils infliger une humiliation à la France? La commissaire européenne Sylvie Goulard confirmée ou pas aujourd'hui. Le mondial de rugby perturbé par le typhon Agibis, colère des Italiens éliminés sans jouer. La pollution de l'air en ville, quelles mesures contre elle? Nous irons prendre des idées chez nos voisins. C'est la chronique européenne de Delphine Simon. Voilà qui nous mène tout naturellement à la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
13h30, éclairez-nous sur le sujet du jour.
Oui, autre pollution, la pollution lumineuse. Un tiers de la planète ne voit plus la voûte céleste et le manque d'obscurité a des conséquences sur l'ensemble du monde vivant. Je reçois le géographe Samuel Chalea et on attend vos questions dès maintenant.
Oh, 01 45 24 7000. Questions dès maintenant. Émission 13h30. Avant cela, dans la série On exhume des trésors en rangeant sa cave, Béatrice Duguet nous racontera l'histoire d'un Américain. Il a retrouvé les bandes d'un reportage audio inouï sur le débarquement en Normandie. Le 13h, vous avez le programme. C'est parti.
France Inter.
Le pire a-t-il commencé en Syrie, pour reprendre l'expression de l'ONU à propos de l'offensive turque dans le nord-est du pays? La Turquie veut se créer une zone de sécurité, y mettre les nombreux réfugiés de la guerre en Syrie qui sont aujourd'hui sur son sol. Elle veut aussi s'en prendre aux combattants kurdes qui tiennent la région et qu'elle considère comme des terroristes. Ces Kurdes qui affirment qu'une prison abritant de nombreux djihadistes a été bombardée. Voilà qui étaye les craintes de la communauté internationale, voire les djihadistes retenus prisonniers par les Kurdes s'échapper grâce à cette offensive. Il va de soi que cette information demande confirmation. Nous allons dans le pays qui a lancé l'offensive. Bonjour Anna Dlauer.
Bonjour.
Anne, le président Erdogan vient de parler chez vous.
Oui, et il a défendu une opération menée, selon lui, pour contribuer à protéger l'intégrité territoriale de la Syrie. Mettez-vous de côté pendant que nous poursuivons notre route, a-t-il lancé au pays qui se dresse depuis hier contre l'opération. Il a cité le groupe État islamique parmi les cibles turques, accusant notamment la France et l'Allemagne d'avoir importé en Syrie des membres de Daesh et de lancer aussi à l'Europe. Si vous qualifiez notre opération d'invasion, eh bien nous ouvrirons les portes à 3 600 000 réfugiés. Alors sur le terrain, ces dernières heures, les rebelles syriens qui servent de supplétifs à l'armée turque sont entrés à leur tour en Syrie. Depuis hier soir, en fait, deux brigades des forces spéciales turques ouvraient la voie à ces combattants locaux qui, il faut le dire, mènent l'essentiel du combat au sol. L'agence officielle turque rapporte la prise de deux villages à l'ouest de Tal Abyad et des avancées près de Ras Alain. Ces deux localités frontalières, séparées de 120 km, délimitent pour l'instant l'étendue de l'offensive turque. Il semble que dans un premier temps, le plan d'Ankara soit de prendre le contrôle des zones rurales entre ces deux régions avant de peut-être tenter de capturer leur centre-ville.
Merci Anne Dlauer en direct d'Istanbul pour France Inter. Les réactions à cette offensive qui a commencé hier en Europe, Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française. Cette opération unilatérale doit cesser, elle risque de porter atteinte à la sécurité des Européens. La Russie appelle à des pourparlers entre Syrie et Turquie. L'Iran demande la cessation immédiate de l'offensive. Et puis il y a l'embarras de Donald Trump aux États-Unis. Trump qui dans un premier temps avait semblé avoir donné son feu vert à la Turquie. Cette opération militaire est une mauvaise idée, a-t-il corrigé hier, et il a ajouté des propos assez étranges sur les Kurdes, qui jusqu'ici étaient les alliés des États-Unis.
Les Kurdes se battent pour leur terre, comprenez bien. Et j'ai lu tout à l'heure un article très puissant qui disait « Les Kurdes ne nous ont pas aidés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ne nous ont pas aidés en Normandie, par exemple. Qui plus est, nous avons dépensé énormément d'argent pour leur venir en aide en termes de munitions, d'armement ou de salaire. » Ceci étant dit, nous aimons bien les Kurdes. Il y a chez eux plusieurs factions, vous avez le PKK, mais aussi d'autres groupes avec lesquels on a travaillé. Mais avant tout, ces gens se battent pour leur terre.
Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Bruno.
Alors le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce soir, quelle réponse peut-il apporter ?
Eh bien, les Européens qui ont les premiers tiré le signal d'alarme sont à l'origine de cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle se tiendra ce soir à la demande des pays d'Europe membres permanents ou non permanents de cet actuel Conseil de sécurité. France, Royaume-Uni, Allemagne, Pologne et Belgique. Le résultat s'annonce incertain. Compte tenu des revirements possibles de Donald Trump, les États-Unis et la Russie ne devraient pas être très offensifs contre la Turquie. Sergueï Lavrov demande simplement des pourparlers entre Turcs et Syriens. La Chine appelle au respect de la souveraineté syrienne. L'Iran demande le retrait des troupes turques. Mais le seul moyen pour stopper l'opération en cours serait l'envoi de casques bleus, hypothèse peu probable pour l'instant.
Et l'Union européenne, Bertrand, de quels moyens de pression dispose-t-elle ?
Alors, sur le plan militaire, l'Europe, une fois encore, ne peut que constater son incapacité à intervenir. Il y a bien sûr de possibles sanctions économiques qui frapperaient durement les Turcs. Bruxelles peut aussi mettre un terme aux négociations d'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, processus actuellement gelé, même si Ankara menace toujours, on l'a entendu, de laisser déferler vers l'Europe les 3,5 millions de réfugiés de toute nationalité qu'elle héberge sur son sol, faute de pouvoir les installer en zone kurde. Recep Tayyip Erdogan l'a redit ce matin devant les parlementaires de l'AKP.
Et puis Bertrand, il y a l'OTAN, l'Alliance Atlantique, dont la Turquie est membre.
Les Turcs qui se fournissent en missiles auprès des Russes n'ont déjà plus la confiance des Américains au sein de l'Alliance Atlantique. Les États-Unis ont besoin de les garder pour assurer la présence de l'OTAN dans la région, mais ils les écartent de fait d'un certain nombre de responsabilités opérationnelles. Les exclure serait un geste fort, aux conséquences toutefois incalculables.
Merci Bertrand Galichet, voilà ce que l'on peut dire de cette offensive turque en Syrie pour l'instant. Et nous allons en Allemagne à présent. Que les néo-nazis et autres groupes extrémistes gagnent en influence en Allemagne 75 ans après l'Holocauste est très parlant. Propos du président du Congrès juif mondial après l'attentat antisémite de Halle dans l'est du pays hier. Un homme armé en veste militaire sur le point de commettre un massacre dans une synagogue le jour de Kippour. Les portes ont résisté. Il a tué une passante puis le client d'un restaurant à proximité avant d'être arrêté à l'issue d'une course-poursuite. Alors que les actes antisémites augmentent en Allemagne, des représentants éminents de la communauté juive mettent en cause la police. Pas assez de protection. Bonjour Ludovic Piétenu.
Oui, bonjour Bruno.
Correspondant de France Inter en Allemagne, Ludovic, ce matin, le président allemand s'est rendu à la synagogue de Halle.
Oui, il est arrivé il y a à peu près trois quarts d'heure et il vient de quitter la synagogue. Il a d'abord déposé une gerbe de fleurs. Il s'est très longuement recueilli et puis il est rentré au contact, à la rencontre de la communauté juive de Halle à l'intérieur de la synagogue. En sortant, sa déclaration est assez succincte et simple. C'est un jour de honte pour l'Allemagne, dit-il, reprenant en cela la une du quotidien le plus populaire du pays, Bild, qui a titré ainsi. Ce matin, c'est un jour de honte. Il ne suffit pas, dit-il, de condamner cette attaque. L'État allemand doit assurer la sécurité des Juifs du pays. Je pense qu'en disant cela, il renvoie la balle discrètement mais à son ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, qui doit arriver sur place d'une minute à l'autre. Et c'est évidemment de lui que peuvent venir de telles décisions, notamment sur la sécurité de la communauté juive et des synagogues en Allemagne. C'est une... En moyenne, par exemple, un chiffre, une agression physique chaque semaine en Allemagne contre un membre de la communauté juive. Joseph Schuster, le président du Conseil central des Juifs d'Allemagne, reproche à la police locale, ici à Halle par exemple, de ne pas avoir protégé cette synagogue un jour de fête de Yom Kippour. Le combat contre l'antisémitisme en Allemagne s'était un tout petit peu endormi, estime un citoyen qui était là à mes côtés. Il parle d'un peu d'un tam-tam entame politique, ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et lui dit, il faut vraiment se soucier, il faut vraiment que l'Allemagne se réveille, il est plus que temps.
Noch viel wichtiger ist, dass die zivile Gesellschaft sich gegen Antisemitismus und Rassismus stellt. Dass wir diejenigen sind, die sagen, stopp, wir wollen euch nicht.
Und voilà, c'est encore plus important que la société civile se mobilise, dit-il, qu'elle s'oppose au racisme, à l'antisémitisme. Et aujourd'hui, les politiques arrivent avec ce tam-tam, il y a les reporters du monde entier, mais qu'est-ce qui se passera demain et après-demain? Voilà, la question est posée, il est vrai que l'Allemagne est un peu endormie sur ce terrain de l'antisémitisme, un pays qui pourtant avait promis et juré plus jamais ça.
Merci Ludovic Piétenu en direct d'Allemagne pour France Inter. À Bruxelles et à Strasbourg, la Française Sylvie Goulard sera-t-elle confirmée commissaire européenne par le Parlement européen? Un non serait un gros revers pour la France. Deux reproches lui sont adressés. L'affaire des emplois présumés fictifs du Modem, son ex-parti au Parlement et l'argent qu'elle a touché de la part d'un milliardaire germano-américain entre 2013 et 2016 alors qu'elle siégeait à Strasbourg. Y avait-il conflit d'intérêts? Sylvie Goulard avait été entendue une première fois par les eurodéputés, elle ne les avait pas convaincus. Seconde audition ce matin, 1h30, et beaucoup de questions insistantes, Angélique Bouin.
Droite dans ses bottes, Sylvie Goulard dit à plusieurs reprises comprendre les interrogations des élus. Mais pas question de s'engager à démissionner automatiquement en cas de mise en examen. Cette automaticité risquerait de devenir une règle au niveau européen, mettant en danger, dit-elle, l'indépendance de la Commission. Quant à son travail, grassement rémunéré par une fondation américaine alors qu'elle était élue, ce n'était pas un lobby mais un club de réflexion, insiste-t-elle. Ne craignez-vous pas l'image que ces 330 000 euros perçus renvoient de vous-même aux citoyens et aux plus pauvres, lui lance Manuel Bompard de la France Insoumise. Sylvie Goulard fend l'armure, visiblement blessée. Elle rappelle son travail en faveur de la lutte contre la pauvreté alors qu'elle était eurodéputée.
Vous pouvez effectivement réduire le combat d'une vie à un contrat de consultance pendant 2 ans. Je tiens simplement à rapporter ici un fait, c'est que justement pendant plusieurs années dans ce Parlement, j'ai été membre de l'intergroupe de lutte contre la pauvreté et je l'ai présidé. Moi je suis devant vous aujourd'hui, je vous demande simplement de prendre en compte l'ensemble de mon parcours. Avec ce qui peut vous plaire et ce qui peut peut-être déplaire ou être jugé comme étant moins opportun. Une vie, c'est ça.
Une audition difficile avec des questions répétées sur son intégrité auxquelles elle n'a pas toujours réussi à répondre avec clarté.
Et le résultat de cette audition et la validation ou non de la candidature de Sylvie Goulard sera connue dans la journée. Une mauvaise nouvelle pour elle, le Parti Populaire Européen. Selon l'agence de presse Reuters, le PPE, la droite, la première force politique au Parlement européen, votera contre sa nomination. C'est ce qu'annonce un porte-parole à l'agence Reuters. Emmanuel Macron était attendu au tournant à Lyon. C'est la conférence de refinancement du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. L'objectif cette année est de récolter 14 milliards de dollars. Et ça faisait longtemps que la France n'avait pas augmenté sa contribution au fonds. Alors les associations demandaient plus 25% pour la contribution française. Ce ne sera pas tout à fait ça. Emmanuel Macron ce matin à Lyon.
Nous avons demandé à tout le monde d'accroître de 15% la contribution. Et donc, la France sera évidemment au rendez-vous de cette augmentation, avec une augmentation de 15% de notre contribution à la hauteur de notre mobilisation. 14 milliards, c'est le minimum. Donc, je ne laisserai personne sortir de cette pièce, ni quitter Lyon, tant que les 14 milliards de dollars ne seront pas obtenus.
Bon, c'est noté, même le président français cite des pays qui pourraient faire mieux, Japon, Norvège, Australie, Émirats Arabes Unis, Arabie et Qatar. Côté français, la contribution avoisinera donc le 1,250 milliard de dollars pour les 3 ans à venir. Sommet de lutte contre le sida à Lyon, sommet des maires des grandes villes du monde à Copenhague, au Danemark. Ils ont beaucoup de sujets de préoccupation communs, en particulier la lutte contre la pollution. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Comment ça se passe ailleurs en Europe? Votre chronique chaque jeudi dans ce journal de 13h à l'occasion de ce sommet, eh bien vous avez regardé dans quelles grandes villes européennes on trouve les bonnes idées pour lutter contre la pollution, en commençant par la ville qui accueille le sommet, Copenhague et son autoroute à vélo.
Oui, Copenhague où le cycliste est roi pour relier le cœur de la capitale danoise aux 13 villes de sa banlieue. 8 autoroutes cyclables ont été construites depuis 20 ans sur ces trajets de 10 à 15 kilomètres. Les pistes sont larges, les vélos peuvent se doubler. À tous les croisements, la priorité est donnée aux cyclistes. Les feux de signalisation s'adaptent aux vélos on trouve des stations-service équipées de rustines, de pompes à vélo et d'aires de repos. Copenhague table sur 1 million de trajets voitures en moins. Et déjà en centre-ville, le trafic des vélos a dépassé celui des voitures. La pollution de l'air a été réduite de 40% en 15 ans. Il est vrai que c'est aussi en bonne partie grâce au chauffage urbain. 90% des habitants de Copenhague sont connectés au réseau.
Autre ville intéressante, Delphine Simon, Rotterdam aux Pays-Bas, qui a instauré le péage positif.
Oui, plutôt que de punir, Rotterdam a choisi de faire l'inverse. Elle récompense ses habitants lorsqu'ils laissent leur voiture au garage. Les automobilistes qui évitent les heures de pointe et changent leur trajet ou leur mode de transport gagnent 3 euros par trajet évité. Ce sont les radars qui contrôlent qui doit être ainsi récompensé et ça marche. Le trafic baisse de 6%, principalement parce que les automobilistes changent d'horaire et font du télétravail. En France, la ville de Lille a voulu tester ce péage positif, mais la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le lui a interdit pour éviter que les radars ne connaissent tous nos trajets.
Et puis, on va en Pologne. Dernière initiative à propos du charbon.
Oui, direction Cracovie, l'une des villes les plus polluées d'Europe. Le smog y sévit particulièrement l'hiver. Poussée par ses habitants, la municipalité a pris la tête de la lutte contre la pollution en Pologne. Depuis le 1er septembre de cette année, les vieux poêles à charbon sont interdits. Sur 30 000 poêles, la plupart obsolètes, 80% ont été remplacés en 3 ans. Car la ville a financé le tout à 100%. Cela dit, il ne suffit pas d'avoir une nouvelle chaudière si on y brûle des déchets ou des dérivés de charbon de mauvaise qualité. La ville de Cracovie va donc payer la différence de coût pour les foyers qui s'engagent à utiliser un combustible moins polluant. Dans la foulée, 7 autres villes polonaises se sont engagées dans des plans similaires, mais ça ne servira à rien tant que les voisins ne se décideront pas à en faire autant. Vous le savez, Bruno, la pollution ne connaît pas de frontières.
Merci Delphine. Simon, à propos de pollution, des perquisitions en cours ce jeudi dans les locaux administratifs de l'usine Lubrizol à Rouen. Et le Sénat a voté à l'unanimité ce matin la création d'une commission d'enquête parlementaire sur cette affaire.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Comme promis dans les titres, on retrouve Ilana Mor-Youssef pour le prix Nobel de littérature. 2 prix cette année, donc 2 voix du service culture de France Inter. À vos côtés, Ilana, Eva Bétan. Alors, on revient sur le nom de ces 2 lauréats, puisqu'il n'y avait pas eu de prix l'année dernière. C'est pour ça qu'il y en a 2 cette année. Eva, commençons donc peut-être avec le 2019. Peter Handke, l'Autrichien.
Alors, l'Autrichien, il a 76 ans aujourd'hui. Oui. Il faut voir le
aujourd'hui,
cette année, maintenant, de nos jours. Il faut voir le paradoxe, c'est qu'il a été un écrivain culte dans les années 70-80. Il a représenté une génération. Il est le co-scénariste avec Wim Wenders des Ailes du Désir. En 1972, il a une célébrité stupéfiante avec son livre qui s'appelle La courte lettre pour un long adieu. C'est une manière d'écrire qui semble nouvelle. Il semble donner un coup de vieux aux autres. Il aime le rock, il aime les États-Unis comme Wim Wenders. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il faut revenir à ses origines pour comprendre la suite. Il est très marqué par ses origines. Sa mère est en partie slovène, il est né en Corinthie, à la frontière entre l'Autriche et la Yougoslavie. Oui. Ça va être très important pour lui et ça va peut-être justifier le fait qu'il va prendre fait et cause pour les Serbes. Il va même aller à l'enterrement de Milošević. La Comédie française qui devait...
C'est la version plus polémique de la ville.
Exactement. Voilà. Qui devait a déprogrammé une de ses pièces. Donc il y a ces deux choses. En 2008, il disait... Je ne peux pas imaginer qu'on ne me donnera pas le Nobel pour des raisons politiques. Eh bien, vous avez la réponse.
Alors, Ilana Mor-Youssef, au nom de l'année 2018, c'est une écrivain polonaise qui est primée, Olga Tokarczuk.
Oui, c'est un grand nom de la littérature polonaise. Elle a 57 ans. Elle a étudié la psychologie à l'université de Varsovie. Et même si on la connaît peu en France, c'est une écrivaine de réputation mondiale. Elle a été lauréate en 2019 du très prestigieux Man Booker Prize International. Ouais. Son roman de 2014, Les Livres de Jacob a été traduit en français par la maison d'édition suisse Noir sur Blanc. Alors on peut se demander pourquoi diable faut-il que ce soit des Suisses qui nous fassent découvrir en français ce grand écrivain. Et nous avons au téléphone l'éditrice française d'Olga Tokarczuk, Vera Michelski.
Bonjour Vera Michelski.
Bonjour. Alors d'abord un petit mot. Nous sommes peut-être aussi. Nous sommes aussi en France à la rue des Canettes.
Oui.
Donc c'est bien des droits de langue française que nous parlons.
Au-delà de ça, justement, juste un mot, permettez-moi de vous dire. Moi, je ne connais pas Olga Tokarczuk et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'écoute qui ne la connaissent pas. En quelques secondes, présentez-nous-la. Qui est-elle? Comment sont ses livres?
Alors, ces livres sont tous, chacun de ces livres est dans un univers totalement différent.
Oui.
Alors là, le dernier que nous avons publié l'année dernière, qui est un pavé de 800 pages, s'intéresse et il y a consacré, vous m'entendez ?
Oui, très bien, je vous écoute attentivement.
S'intéresse et il y a consacré donc plusieurs années de recherche au personnage de Jakob Frank, qui est un messie autoproclamé qui a traversé donc toute l'Europe des Lumières, et donc il y a a entraîné derrière lui toute une cour qui on voyait qu'à l'époque les gens voyageaient de Turquie en Pologne, etc. Et donc finalement l'affaire se termine mal, mais donc elle a cette ouverture vers tous les pays du monde.
Et sa personnalité à elle en quelques mots.
C'est quelqu'un de très solaire et de très très intéressé par tout, intéressé par l'écologie aussi notamment. Et qui, par exemple, a publié un de ses livres qui s'appelle donc Sur les ossements des morts, qu'on a pu qualifier de polar écologique, qui a fait l'objet d'un film d'Agnieszka Holland d'ailleurs. Un livre qui a été, cette année, à nouveau sur la shortlist du Man Booker international.
Et donc maintenant, le prix Nobel.
Qu'elle avait gagné en 2018.
Absolument, voilà. Ce qu'a rappelé Ilana Mouriouceff. Et donc maintenant, le prix Nobel de littérature. Merci beaucoup d'être intervenu dans notre journal. Pour ces deux prix Nobel, merci également à Ilana Mouriouceff et Eva Bétan, Peter Handke et la Polonaise dont vous allez prononcer le nom parce que moi, je vais me planter. Ilana Mouriouceff.
Olga Tokarczuk.
Merci beaucoup. Les salariés le redoutaient depuis quelques semaines. Michelin annonce la fermeture de son usine à La Roche-sur-Yon, en Vendée. 619 salariés. On y fabrique des pneus pour poids lourds. Raison avancée par la direction, la concurrence asiatique féroce. Ça ne suffit pas aux salariés. Les plus en colère appellent à une grève illimitée. Envoyé spécial, Raphaël Ebenstein.
Les pneus et les palettes enflammées dans la matinée devant l'usine ont fini de se consumer, mais pas la colère ni l'amertume des salariés. Abdelghami, comme beaucoup de ses collègues, se sent trahi.
On a travaillé dur, on était en 3-8, on est passé en 4-8, on a travaillé les dimanches au profit de nos vies de famille. Puis à la fin, on nous dit que voilà, qu'on n'est pas rentable pour Michelin, c'est ça qui est triste.
Jean-Paul Chiocchetti, le directeur France de Michelin, venu faire l'annonce de la prochaine fermeture de l'usine, est conscient du choc qu'elle a provoqué parmi les salariés.
Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de déceptions parce qu'ils ont beaucoup donné. Maintenant, il faut laisser à nos salariés le temps de partager ça avec leur famille, avec leurs proches. Et puis on reviendra vers eux le plus tôt possible.
La direction de Michelin insiste sur les propositions de reclassement au sein des 14 autres sites français du groupe. Mais pour Anthony Guyotot, délégué CGT de l'usine de La Roche-sur-Yon, il faut se battre pour sauver le maximum d'emplois sur place.
Pour l'instant, on va se battre pour les emplois, les gars. Ouais, parce que c'est Michelin. Michelin a touché du fric de l'État. Il a touché plus de 300 millions de l'État en 5 ans. Il se démerde. Il nous trouve du taf ici. Et on veut les mêmes salaires et du boulot sur le site de La Roche-sur-Yon.
Et des négociations doivent officiellement commencer dès le 15 octobre avec les syndicats.
Et parmi les réactions, celle du sénateur de Vendée, Bruno Retailleau, qui veut demander des comptes au président de Michelin. L'audition de Christophe Castaner devant le Sénat après la tuerie à la préfecture de police de Paris. Un policier ou un gendarme doit assumer la dénonciation d'un phénomène de radicalisation. Ça n'est pas négociable, dit le ministre. Ministre qui précise encore, je ne suis pas en mesure de vous dire si le terroriste a diffusé des informations vers l'extérieur ou pas. Dans cette enquête, des éléments nouveaux. Grâce à Delphine Gotcho, sur l'audition de la femme de Michael Harpon.
Elle l'a dit et répété tout au long de ses 8 auditions, assistée d'un interprète en langue des signes car elle est sourde. Jamais, assure Ilham, elle n'a noté de signes de radicalisation de son mari. Cette femme de 39 ans, née en France de parents marocains, ne porte pas le voile, s'habille à l'occidentale, a fait des études et a travaillé avant de s'arrêter à la naissance de son deuxième enfant. Pour elle, son mari est un musulman pratiquant, il va à la mosquée, c'est tout. Il s'est converti avant leur mariage, explique-t-elle, il a fait son propre chemin. Aux enquêteurs, elle raconte la nuit qui précède la tuerie. Le réveil de son époux à 4h du matin dans une sorte de transe, une crise mystique. Il récite des versets du Coran, crie à la Wakbar, lui dit qu'il entend des voix, qu'elle doit protéger leurs enfants. Elle s'inquiète de le voir partir travailler le lendemain, lui envoie de nombreux SMS, comment vas-tu, auxquels il répond par des formules religieuses, demande l'avis d'un de ses collègues de la préfecture de police, il est bizarre, comment tu le trouves. Lorsque les policiers arrivent chez elle pour la placer en garde à vue, elle ne comprend pas ce qui est en train de se passer, ne comprend pas que son mari est l'homme qui vient de poignarder poignardé à mort 4 collègues. Pas un seul instant, dit-elle, je n'ai pensé qu'il pouvait s'en prendre à quelqu'un d'autre que lui-même.
Voilà pour ces informations de Delphine Gocho. Il faisait beaucoup trop chaud au Qatar pour les championnats du monde d'athlétisme qui se sont achevés le week-end dernier. Il y a beaucoup trop de vent au Japon, dans la région de Tokyo ce week-end pour le mondial de rugby. Typhon Agibis, des rafales jusqu'à 250 km/h redoutées et des pluies torrentielles. Conséquence, au moins 2 matchs sont purement et simplement annulés. France-Angleterre, conséquence, la France évitera les All Blacks en quart de finale et jouera très probablement contre le Pays de Galles le dimanche 20 octobre au matin. Et puis, Nouvelle-Zélande-Italie, bonjour Amaya Cazenave.
Bonjour.
Et là, les Italiens sont furax.
Oui, ils sont furax parce que avant l'annulation de leur match face aux Néo-Zélandais, les Italiens avaient encore une chance de se qualifier pour l'écart. Alors certes, une toute petite chance, mais lorsqu'on n'a jamais atteint les phases finales d'une Coupe du Monde de rugby, on s'y accroche. Les Transalpins devaient battre les All Blacks samedi, sans que ceux-ci prennent un point de bonus défensif. Ils auraient alors éliminé les hommes en noir, là aussi du jamais vu, mais ils n'auront jamais cette opportunité. Après cette décision, le sélectionneur de la Squadra Azzurra s'est poliment dit amer ce matin pour ses joueurs, pour le staff, les supporters, mais son capitaine a été beaucoup plus virulent, plus critique. Sergio Parisse estime que son équipe méritait plus de respect et met même en doute l'impartialité de World Rugby, l'organisme qui gère le rugby mondial. Il ajoute, ce match se serait joué si les Blacks avaient besoin de points. Les organisateurs devaient avoir un plan B, ce n'est pas juste. Sergio Parisse, troisième ligne emblématique de l'Italie, hein, qui jouera à Toulon après des années au Stade français. Il achève sa carrière internationale sur cet imbroglio. Une fin au goût très très amer pour ce très grand monsieur du rugby. 5 Coupes du Monde et 143 sélections avec l'Italie.
Et un autre match à Maya pourrait être annulé, Japon-Écosse. En revanche, pour l'instant, le déroulement du Grand Prix de Suzuka, on n'est pas loin de Tokyo là aussi, n'est pas remis en cause. Un mot de football, un nouvel entraîneur de Ligue 1 viré de son poste, Alain Casanova à Toulouse. L'équipe est actuellement 18e sur 20 au classement. Et l'histoire émouvante du jour. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Quand un Américain retrouve chez lui les bandes d'un reportage radio inouï du débarquement américain en Normandie.
Le reporter s'appelle George Hicks. Il est correspondant de guerre pour NBC, embarqué à bord de l'USS Ancon, cuirassier américain. Le 6 juin 44, il est aux premières loges, au large des côtes normandes, et il raconte ce qu'il vit pour envoyer le reportage plus tard, parce que évidemment, c'est pas de direct
pas
possible.
Pas d'internet.
Non. Or donc, il décrit cette scène de guerre. Voix calme, ses collègues le disent incapable de surjouer l'émotion. Un avion de la Luftwaffe survole le navire. Les traînées des avions dessinent un arc juste au-dessus de la proue. La nuit s'annonce animée, dit-il. Les mitrailleuses, les canons. George Hicks est au cœur de la bataille. Il retient son souffle, cesse son récit, le reprend. Something burning is falling down through the sky. And circling down, maybe a hit plane. Ce reportage vous transporte évidemment dans ce moment d'histoire qu'est le débarquement. C'est exactement ce que Bruce Campbell, le propriétaire de la cave où la bande a été rangée, a ressenti en l'écoutant. Il l'a donné au Mémorial National du D-Day de Bedford aux États-Unis. Dernière précision, pourquoi cette précieuse archive a-t-elle été retrouvée dans la maison de Bruce Campbell? Eh bien parce qu'à l'origine, c'était celle du fabricant du magnétophone de George Hicks.
Merci Béatrice Duguay. Des extraits et la traduction et la transcription, vous retrouvez tout ça sur franceinter.fr.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Élodie Calac.
Sur l'ouest de la Bretagne et le Cotentin, les nuages prennent l'avantage. Même chose de la Vendée et des Charentes vers le centre, le Limousin, la Bourgogne avec quelques pluies en prime. Ailleurs, c'est partagé entre nuages et bons moments de soleil. Un soleil très généreux entre les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée avec du vent jusqu'à 80 km/h. Et puis sur les Hauts-de-France et le Grand Est, il reste quelques averses possibles. Les températures montent, elles sont proches des moyennes de saison. 16 degrés à Nancy, 17 à Lille, 18 à Paris, Châteauroux, Lyon, 21 degrés à Bordeaux et à Toulouse, 24 à Toulon, à Bastia et 25 à Montpellier. Demain, il fera doux, 18 à 26 degrés. Ce sera chaud sur le sud-ouest jusqu'à 29 degrés. Le soleil s'imposera après les grisailles du matin. Un bémol près de la Manche, ça restera encombré avec quelques gouttes.